est au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Il y a des taureaux qui s'aiment pas entre eux et qui peuvent pas se supporter. Mais alors, jusqu'au jour où il y en a un qui prend des forces et qui essaie de prendre sa place. Alors il y a des bagarres terribles qui durent jusqu'à 24 heures. J'ai eu moi deux taureaux, deux étalons qui se sont battus pendant un jour et deux nuits.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, je n'ai pas l'intention ce matin de nourrir un débat qui est récurrent depuis longtemps, un débat honorable ou demeurant, sur la légitimité ou non de la corrida. La corrida à laquelle le virus ennemi porte d'ailleurs un rude coup ces temps-ci. Les arguments perdurent inlassablement inchangés dans les deux camps des aficionados et de leurs adversaires. Et on a guère le goût de les recenser à nouveau. Mais bien plutôt à partir des passions qui se manifestent autour d'une pratique qui n'est vieille que de deux siècles et demi après tout, de s'attacher à la figure du taureau depuis la préhistoire. Le taureau sous le regard des hommes. Il s'agira de l'art, puisque depuis Lascaux jusqu'à Picasso, durant 20 millénaires, cet animal a constitué pour les artistes, sans relâche, un objet de fascination, une créature fantasmée et un symbole de l'énergie créatrice. Il s'agira aussi de retracer, en termes plus pratiques, les relations que les hommes ont entretenues avec lui, dans un effort continu pour en apprivoiser la puissance au service de leurs ressources quotidiennes. Quant aux religions, elles n'ont guère cessé d'osciller entre la tentation de célébrer le taureau comme symbole de fécondité et de le dénoncer comme incarnant des forces plus ou moins diaboliques. Michel Pastoureau nous offre sur ce sujet un livre en rouge et noir, un livre d'histoire culturelle parcouru de violence souvent et parfois de quelque chose comme une tendresse. Ce sont là des ingrédients qui se retrouvent dans plusieurs des ouvrages magnifiques qu'il ne cesse de nous offrir à propos des couleurs, des emblèmes et des animaux. Il a le talent de donner au sujet dont il se saisit de la profondeur et de la force selon une séduction qui lui est propre. J'ai eu maintes fois le bonheur d'en faire profiter notre public et de vérifier qu'il ne s'en lasse pas. Je ne doute guère qu'il en sera de même aujourd'hui. Et d'abord, je vous transporte dans la grotte de Lascaux.
Quelques marches encore, et nous sommes dans la salle des taureaux. Monique Pétral, peintre fresquiste du fac-similé de Lascaux, nous en parle.
Je dis que c'est une matrice sur laquelle est peinte, c'est peint ensuite, sur la calcite qui s'est déposée au long de millions d'années, s'est déposée ensuite par l'homme, la figuration des grands taureaux. Et à l'étage inférieur de tous les chevaux. On peut ressentir l'impression des quatre âges de la vie avec ces quatre grands taureaux. Il y a un taureau qui semble un adolescent, il y a un taureau qui semble un vieillard, il y a un taureau qui semble l'âge mûr et terriblement statique et positif, et il y a un taureau qui est l'élément, le grand taureau de force et de sagesse.
Et c'est celui qu'on voit le plus souvent représenté.
C'est celui qui est le plus souvent représenté.
Ce taureau très grand, avec ses cornes à la fois immenses et
très,
presque droites, mais tendues et vivantes.
Exactement, voilà. En plus, l'esthétisme de sa tête est remarquable. Mais je crois que c'est pas là l'essentiel. Je crois que l'essentiel de ce taureau a été appuyé par le professeur Leroy Gouron, c'est ce souffle de vie simulé, indiqué juste sous son mufle. C'est le seul qui a cette espèce de virgule sous le mufle. Pourquoi les autres ne l'ont pas? Pourquoi celui-ci l'a?
Et dans la composition, il est un petit peu à l'écart.
Dans la composition, il commence la partie gauche de la salle des taureaux.
Et quand on quitte dans cette salle des taureaux qui est assez vaste, qui est relativement circulaire...
On entre dans le diverticule axial.
C'est-à-dire un boyau relativement...
Un boyau face à cette salle des taureaux, Et ce diverticule se termine par une représentation complètement symbolique, métaphysique, du cheval qui tombe. Et avant, il y a toute une série de vaches, de la vie, en fait, les vaches avec la fécondité, avec la vie dans la nature. Et tout s'en va vers cette terminaison du diverticule axial. C'est un cheminement vers la lumière, vers la sortie.
Michel Pastoureau, bonjour.
Bonjour.
Celle qui s'exprime ici est compétente, puisqu'il s'agit de Monique Pétral, qui a reproduit à l'identique la grotte de Lascaux dans les années 70, lorsqu'il a fallu faire un doublon, une copie, pour pouvoir accueillir les touristes qui jusque-là auraient risqué de dégrader la caverne originale. C'est un extrait des Chemins de la connaissance sur France Culture, le 19 avril 1988. Le roi Gouran, peut-être faut-il rappeler qui il était ?
C'est un très grand préhistorien qui a un peu infléchi le cours des études préhistoriques dans les années 50, 60, 70. Je l'ai connu à la fin de sa vie. C'était un homme impressionnant parce que il était assez avare de sa parole dans les conversations privées comme dans les rencontres publiques. Il a émis plusieurs hypothèses sur l'art préhistorique, les peintures et gravures des grottes.
On a parlé des grottes statistiques de Leroy Gouran.
Voilà, il a fait des enquêtes sérielles et a invité à ne pas prendre une grotte toute seule, mais des ensembles de grottes, ne pas prendre un animal tout seul, mais le comparer à d'autres animaux, une sorte de sémiologie de l'art rupestre, qui méthodologiquement était remarquable, mais qui parfois aboutit à quelques impasses, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne savons toujours pas très bien comment interpréter l'art des grottes. Ce n'est pas de l'art pour l'art, comme on l'a cru parfois au XIXe siècle, ce serait complètement anachronique. L'abbé Breuil, avant le roi Gouran, avait imaginé qu'il s'agissait d'évoquer la chasse par la magie. Avant d'aller chasser, on représentait les animaux sauvages, les grands herbivores qu'on allait chasser, leur demandant presque la permission de les chasser, quelque chose comme ça.
Culte ou précaution ?
Précaution, rituel magique avec l'acte de dessin plus important que le dessin lui-même, c'est-à-dire que c'est l'action de dessiner qui compte. C'est pour ça qu'il y a dans pas mal de grottes superposition de peinture, superposition de dessins et de gravures qui nous laissent un peu perplexes.
Le roi Gouran a parlé des taureaux qui vous sont chers, en particulier de ceux de Lascaux qui sont anciens.
Lascaux, on est vers 17 000 ans avant le temps présent. Les préhistoriens disent le temps présent, c'est-à-dire 1950. Et nous, historiens, nous disons avant notre ère. Alors nous nous en mêlons un peu dans la façon de compter.
Alors, cette grotte, cette première apparition du taureau, ou plutôt de l'auroch probablement, qu'est-ce qu'elle nous enseigne ?
Il faut plutôt dire auroch ou taureau sauvage, grand taureau sauvage, ancêtre de tous nos bovins domestiques, du moins en Europe et dans la plus grande partie de l'hémisphère nord. Eh bien, justement, il nous intrigue parce qu'il est présent à Lascaux abondamment, mais il est présent plus anciennement. Dans la grotte Chauvet, il y a déjà des aurochs, et là nous sommes vers 32 ou 33 000 ans avant le temps présent. Cet auroch n'est pas la vedette du bestiaire peint du paléolithique. Bisons et chevaux, mammouths, rhinocéros même.
Les bouquetins, les cerfs.
Oui, les cervidés sont plus fréquents que l'auroch. Mais il est quand même présent dans un certain nombre de grottes. Et que fait-il là ? Pour ma part, l'hypothèse ancienne de l'abbé Breuil et de ses disciples, l'idée qu'il y a un rapport avec la chasse et des rituels non pas chamaniques, comme on l'a dit plus récemment, mais simplement magiques, favoriser la chasse à venir, me semble une piste qui n'est pas négligeable. Peut-être est-il impossible de donner une interprétation globale et univoque de cet art animalier pariétal. L'honnêteté oblige à reconnaître que dans l'état actuel de nos connaissances, nous avons un certain nombre de pistes, mais nous n'avons pas de pistes décisives, si je puis dire, d'autant que les risques de surlecture et d'anachronisme sont considérables.
Oui, mais nous assumons ces risques ici, parfois.
Nous assumons ces risques, bien sûr. Il faut se souvenir aussi que nous voyons ce bestiaire et l'art des grottes en général dans des conditions de lumière qui n'ont aucun rapport avec les conditions de lumière qu'ont connues les hommes et les femmes du Paléolithique.
Ça veut dire un risque d'incompréhension ou de transfert?
C'est-à-dire que tout pour nous est relativement statique. Hein, notre éclairage électrique, il est relativement statique, alors que les torches résineuses qu'on utilise au fond des grottes bougent, ce sont des flammes, des lumières qui bougent et qui font bouger les figures qui sont représentées sur les murs. Donc il y a un effet cinétique que nous avons certainement complètement perdu. C'est d'ailleurs pas seulement vrai de la préhistoire, c'est vrai pour les époques historiques jusqu'à l'apparition de l'électricité. Toutes les lumières sont produites par des flammes, donc font bouger et les formes et les couleurs. Et c'est particulièrement vrai pour l'art des cavernes.
Cet auroch est un animal vraiment patibulaire. Vous le reproduisez naturellement parmi les belles, la belle iconographie de votre livre sur le taureau. Michel Pastoureau, il a 5 mètres de long à Lascaux.
Voilà, le grand taureau noir de Lascaux, qui est devenu presque l'emblème de la préhistoire, peut-être même le logo, pourrait-on dire, du point de vue commercial. 5 mètres de long, il est gigantesque, il a l'air redoutable. Et pourtant, c'est un herbivore. Il ne dévore pas de chair humaine. Il a des cornes qui semblent redoutables, en effet, très pointues. Les formes en sont variées, d'ailleurs, sur les images d'auroch de la préhistoire. Mais en tout cas, jamais on ne confond l'auroch et le bison, qui est massivement présent, lui, plus que l'auroch, mais qui a toujours une toison, une espèce de bosse bien marquée sur le dos. Et puis une crinière ou une demi-crinière, alors que l'auroch, lui, a un poil dru et court.
L'homme est le seul prédateur de l'auroch.
Oui, l'homme est le seul prédateur. Il chasse l'auroch, qui est une chasse certainement dangereuse, probablement pour s'emparer de sa chair, de sa viande, mais aussi, à des époques peut-être plus récentes, de sa peau pour fabriquer des vêtements ou des ancêtres de vêtements. Plus tard, des tentures diverses, peut-être des barques et des objets de la vie quotidienne. Et puis également, l'auroch fournit de la graisse pour s'éclairer, par exemple. Il fournit également des tendons, des os, à partir desquels, au paléolithique finissant, on fabrique un certain nombre d'objets.
L'auroch n'existe plus, le dernier a disparu au XVIIe siècle.
Voilà, et les documents attestent sa présence en Pologne et en Lituanie au XVIe siècle, et en Pologne finalement le dernier auroch, qui était une femelle, meurt en 1627, alors qu'elle était extrêmement protégée, qu'elle avait son propre gardien, qu'elle était bien nourrie. L'histoire de l'auroch se termine là.
Certains prétendent qu'il pourrait faire ressurgir une sorte de cousin de l'auroch.
Oui, des tentatives ont été faites à partir d'ADN, de croisements, d'expériences diverses pour essayer de mettre en scène un animal qui ressemblerait à cet auroch venu du fond des âges. Ça n'est pas complètement convaincant, mais c'est assez intéressant comme expérience.
Jules César apparemment a fréquenté l'auroch, puisqu'il en parle dans la guerre des Gaules.
Il l'appelle Ourus, probablement un mot qu'il emprunte à une langue germanique avec une racine double, Our, qui dans les anciennes langues germaniques, et encore en allemand moderne d'ailleurs, signifie ancien, très ancien d'autrefois, et puis Ox, Ur-Ox, le bœuf très ancien, le bœuf d'autrefois, qui va donner plus tard un mot qui influencera la création du français, auroch, attesté à la fin du Moyen-Âge, mais surtout devenu courant parce que Buffon l'a employé au XVIIIe siècle.
L'histoire de la domestication du taureau, et non plus de l'auroch, est évidemment riche d'enseignements.
Oui, la domestication, c'est quelque chose dont la définition évolue au fil du temps.
Est-ce que c'est avant la sédentarisation ou après ?
C'est après, il faut que l'homme soit sédentaire pour que l'auroch devienne taureau, en quelque sorte, que l'animal soit domestiqué. Les animaux domestiques qui sont domestiqués avant le néolithique, avant la sédentarisation, sont les animaux qui peuvent accompagner les populations nomades, qui peuvent les suivre. C'est pour ça que le mouton, la chèvre et le chameau ont été domestiqués avant les bovins, les porcins et quelques autres. Alors pour le taureau, on peut penser que la domestication s'est faite peut-être sur plusieurs foyers, le principal se situant aux confins de la Syrie et de la Turquie actuelle, quelque part par là, au Proche-Orient, à une date qu'on peut situer vers 8000 ans avant le temps présent, comme disent les préhistoriens, mais on peut en discuter, et plus les recherches avancent, plus on a tendance à remonter le temps pour la domestication de telle ou telle espèce. Aujourd'hui, on remet en question d'ailleurs parfois l'idée que tel animal sauvage a donné tel animal domestique. Est-ce que le porc domestique descend vraiment du sanglier ?
Le chien,
ou est-ce qu'ils
le
sont
chien.
Un ancêtre commun ?
Le chien.
Est-ce que le chien est un loup qui a été castré et domestiqué à l'origine ? Ou est-ce que ce sont deux animaux qui ont un ancêtre commun, etc. Pour les bovins, il semble bien quand même que l'auroch, le grand auroch, soit à l'origine de nos bovins domestiques. Il n'y a pas trop d'hésitation sur cette question.
Alors j'en viens maintenant à la question des mythologies, des évangiles, des bestiaires, des encyclopédies. Car l'interprétation, le regard que les humains ont jeté sur les taureaux mérite vraiment qu'on s'y attarde.
Oui, les mythologies anciennes sont riches d'histoires de taureaux, d'histoires de bovins, même d'une manière plus large, que l'on soit d'ailleurs du côté de la mythologie grecque ou de la mythologie celtique ou de la mythologie nordique, germano-scandinave, ils sont très présents.
Mais déjà à l'époque mésopotamienne, beaucoup plus loin en arrière.
Alors plus en amont, en effet.
La fameuse épopée de Gilgamesh. Là, je vous ai interrompu parce que j'ai eu envie de vous donner à entendre un extrait de cette épopée, lu par Marguerite Taos dans la matinée des eaux sur France Culture, le 29 juillet 1978. Gilgamesh.
Anu envoya un taureau céleste à Uruk. À son premier éternuement, il tue 300 guerriers. Et Enkidu saisit le taureau céleste par les cornes. À son second éternuement, 200 guerriers tombèrent. À son troisième éternuement, Enkidu s'approche doucement de lui et saute sur son dos, puis le saisit par la queue. Il dit à Gilgamesh, « Mon ami, nous avons rendu notre nom glorieux. » Et Gilgamesh, un bon chasseur, enfonce son glaive entre la nuque et les cornes. Lorsqu'ils eurent abattu le taureau céleste, leurs cœurs furent en paix. Et en face de Shamash, ils s'assirent pour se reposer. Alors Ishtar assembla les jeunes filles du temple, les prostituées et les prêtresses. Sur la cuisse du taureau du ciel, elles se répandirent en lamentations. Gilgamesh appela les maîtres, les artisans, tous. Les maîtres apprécièrent la grosseur des cornes. Chacune pesait bien 30 livres de lapis-lazuli, et leur étui épais comme deux doigts. Il versa 6 mesures d'huiles aromatiques, autant que contenaient les deux cornes, pour son dieu. Lugalmarada. Il apporta les cornes au temple de son dieu et les fixa à son trône. Puis, ils lavèrent leurs mains dans l'Euphrate et partirent se promener dans la rue du marché d'Uruk. Les gens d'Uruk étaient assemblés et regardaient. Et Gilgamesh parla ainsi aux servantes de son palais. Quel est le plus beau des héros ? Quel est le plus puissant parmi les hommes ? Et Gilgamesh est le plus beau des héros. Gilgamesh est le plus puissant. Alors, Gilgamesh ordonna des fêtes dans son palais.
Comment faut-il interpréter ce texte, Michel Pastoureau ?
Oui, ce texte qui est un des plus anciens récits mythologiques de l'Ancien Monde et qui va influencer d'autres récits mythologiques géographiquement plus éloignés de la Mésopotamie. On y trouve déjà tous les thèmes qui vont se retrouver par ailleurs dans d'autres récits. Celui du taureau intermédiaire entre le monde des dieux et celui des hommes, celui de la lutte contre le taureau, celui de l'offrande de taureau sacrifié, offert aux divinités, celui des cornes, dans lesquelles réside peut-être à la fois la force et la fertilité de l'animal, expliquant un certain nombre de comportements ultérieurs. Tout cela est déjà en place à des dates très très anciennes, difficile de situer dans le temps l'épopée, mais l'oralité a précédé la mise tardive par écrit, mais on est à des dates très très hautes certainement.
La mythologie grecque et latine voit souvent passer le taureau.
Avec des thèmes qui sont récurrents, un peu toujours les mêmes, donc la lutte contre le taureau, qui est un exploit héroïque, celui d'Héraclès, celui de Jason et de quelques autres. La métamorphose d'humain en taureau ou de taureau en humain, avec la création d'êtres mi-homme, mi-taureau.
Ça faisait les délices d'Ovide, évidemment, dans son ouvrage immortel, voilà, Les Métamorphoses.
Un des textes fondateurs de la culture occidentale, un des grands textes fondateurs. Et puis, peut-être un peu plus banalement, le vol de taureaux, le vol de bovins, le vol de troupeaux, qui est quelque chose de très criminel dans les sociétés de l'Antiquité, parce que un troupeau de bovins, c'est toujours signe de pouvoir et de grande richesse.
Et puis il y a l'union charnelle, également. Alors, c'est la troisième volet de cette présence du taureau dans la mythologie.
Voilà, alors il y a par exemple l'histoire du Minotaure qui commence très haut avec l'enlèvement d'Europe. Une très belle jeune fille qui sur une plage voit un magnifique taureau blanc, c'est Zeus déguisé en taureau. Elle s'assied sur le dos de l'animal qui aussitôt s'élance dans la mer et conduit la jeune femme jusqu'en Crète, s'unit à elle, donc un dieu sous forme d'un taureau, mais il a repris son aspect divin. Cela donne naissance à trois enfants, dont l'un, Minos, va devenir le roi de la Crète. Et deuxième histoire d'accouplement,
Minos... Je vous arrête un instant parce qu'il y a un magnifique poème d'André Chénier que j'aime beaucoup et qu'on a envie de réciter souvent à Bruxelles du côté des communautés européennes quand elles sont un peu trop pragmatiques. La Vierge Tyrienne, c'est Europe, son amour, l'amour de Zeus, déguisé en taureau blanc, imprudente, le flatte. Il la flatte à son tour et se fiant à lui, la belle désirée ose asseoir sur son flanc cette charge adorée. Il s'élance dans l'onde et le divin nageur, le taureau roi des dieux, l'humide ravisseur, a déjà passé Chypre et ses rives fertiles. Il approche de Crète et va voir les 100 villes, etc., etc. André Chénier.
Très bien, oui, le taureau a beaucoup à voir avec l'histoire d'Europe et donc devrait être le logo de notre Europe contemporaine ou quelque chose comme ça. Il y a un lien très ancien entre l'Europe, pas seulement donc la jeune femme, mais également la communauté avec cet animal.
Alors le Minotaure, il y a Dédale aussi, etc.
Voilà, on entre dans une deuxième histoire d'accouplement, en quelque sorte, provoquée par le dieu Poséidon, qui s'est fâché avec Minos, et qui, par vengeance, inspire à la femme de Minos, Pasiphaé, un amour contre nature pour un grand taureau, à laquelle elle s'unit, par une espèce de ruse, et ça donne, elle accouche d'un monstre mi-homme, mi-taureau, le Minotaure. Dans l'image, il est tantôt humain par l'arrière-train et taureau par l'avant-corps, parfois c'est l'inverse. Minos est effrayé par ce monstre qui en plus dévore de la chair humaine, donc il demande à l'architecte...
C'est son beau-fils en somme. Oui, c'est puisque c'est le fils de sa femme.
On peut dire quelque chose comme cela.
Et il a comme demi-sœur le Minotaure, il a Phèdre, la fille de Minos et de Pasiphaé, dit Racine, et il a Ariane. Oui, on pense bien sûr à Racine, à Phèdre. Ariane, ma sœur, de quel amour blessé vous mourûtes au bord, où vous fûtes laissé.
Voilà, donc Ariane, Phèdre et le Minotaure sont les enfants de Pasiphaé, mais le Minotaure n'est pas enfant de Minos. Et donc, celui-ci fait construire par l'architecte Dédale, qui se trouvait en Crète, un palais extraordinaire, le labyrinthe, dans lequel, au centre duquel il fait placer le Minotaure, et personne ne peut aller jusqu'au Minotaure, tellement les couloirs sont à contre-courant les uns des autres. C'est un labyrinthe au sens moderne du mot.
Heureusement, le fil d'Ariane...
Ça va finir plus ou moins bien, cette histoire. Chaque année, certains peuples soumis par le roi de Crète doivent fournir un tribut de jeunes gens et de jeunes femmes que le Minotaure dévore. C'est le cas d'Athènes, soumis par Minos, qui envoie chaque année 7 jeunes filles, 7 jeunes gens. Et une année, le fils du roi d'Athènes, Égée, le fils, c'est Thésée, veut faire partie des suppliciés, en quelque sorte. Il arrive en Crète, et là, Ariane, la fille de Minos, tombe amoureuse de lui et lui enseigne une sorte de stratagème pour ressortir du labyrinthe, dérouler un fil pendant qu'il entre pour retrouver la sortie. Thésée affronte le Minotaure, le met à mort, retrouve la sortie, emmène Ariane avec lui comme il lui a promis, mais se comporte très mal d'ailleurs, puisqu'il l'abandonne sur une île. C'est l'histoire aussi d'Égée, puisque Thésée avait promis à son père Égée de montrer une voile blanche s'il était vainqueur du Minotaure et noire si ça s'était mal terminé. Il était parti avec une voile noire qu'il a oublié de changer.
Distraction regrettable.
Et Égée, voyant le bateau revenir, voit la voile noire et croit que Thésée est mort et se jette dans la mer qui porte son nom, la mer Égée.
Cette présence très continue du Minotaure, du taureau, dans la mythologie grecque, comment l'interprétez-vous, Michel Pastoureau ?
Elle souligne l'importance de cet animal, à la fois du point de vue matériel, on lui emprunte beaucoup de produits, on le fait travailler, dans les sociétés anciennes, on attache le taureau à l'arrière, et on attache même l'arrière aux cornes du taureau, avec l'idée que c'est là que se situe la fertilité, les cornes étant en relation avec la lune, dont elles épousent la forme.
On inventera le joug que beaucoup plus tard.
Voilà, pendant très longtemps, le taureau où le bœuf tire l'arrière, et puis au deuxième millénaire avant notre ère, il pousse au lieu de tirer avec l'invention du joug. Contrairement aux chevaux, aux ânes, aux mulets, le taureau et le bœuf, plus tard attaché à la charrue, poussera au lieu de tirer.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Dans l'ensemble de ces mythologies, également en Égypte que vous évoquez tout à l'heure, le taureau, c'est à la fois la fécondité, l'énergie et aussi une certaine forme de sexualité.
Voilà, les Égyptiens ont une admiration pour le taureau et spécialement l'un d'entre eux, parfois qualifié de bœuf, parfois qualifié de taureau, Apis, qui est un bœuf ou taureau vivant que l'on recherche à la mort de l'Apis précédent, et il doit se reconnaître à un très grand nombre de signes particuliers, 29 si je me souviens bien, une robe blanche parsemée de taches noires, avec des signes ayant des formes particulières, un triangle, un faucon à tel ou tel endroit du corps et même sous la langue. Et quand cet Apis est trouvé, il fait l'objet de vénération, il est conduit en procession jusqu'à Memphis, plutôt dans la partie sud de l'Égypte pharaonique. Et là, pendant 25 ans, on lui rend hommage, on le dorlote, on l'honore sous différentes formes. Puis on le met à mort au bout de 25 ans. Et il a des funérailles absolument spectaculaires. Un deuil est proclamé pour 70 jours. Il est momifié, enterré dans le caveau des Apis, le Serapéum, disent les Romains, et puis on cherche le nouvel Apis qui va remplacer celui qui vient de disparaître, et on recherche de nouveau ce bovin avec les 29 signes nécessaires pour être reconnu comme nouvel Apis.
Quand on parle des religions et de la place des taureaux dans l'Antiquité, il faut aussi évoquer le culte de Mithra.
Le culte de Mitra, qui est un culte oriental, qui n'est pas une religion du taureau, comme on le dit parfois, c'est une religion du soleil. C'est le soleil qui est honoré, et on lui sacrifie des taureaux, qui servent également à baptiser les fidèles, avec une cérémonie sanglante, qui se passe dans un lieu précis, sur un autel précis, le taureau-bol, avec égorgement d'un taureau, dont le sang arrose à la fois le prêtre et les fidèles. C'est une religion qui a pénétré dans l'Empire romain au IIe siècle avant notre ère, puis qui se diffuse sous l'Empire, qui entre en rivalité avec une autre religion orientale, le christianisme, au IIe, IIIe, IVe siècle de notre ère.
D'ailleurs, vous évoquez un écrivain chrétien du Ve siècle, Prudence, qui est absolument horrifié par cette pratique et qui écrit « Un ruisseau de sang brûlant s'échappe de l'ample blessure et se répand comme un torrent bouillonnant sur les haies mal assemblées. Le prêtre est dessous. Ce sang, semblable à une pluie putride, tombe dans la fosse où se trouve le prêtre. Il le reçoit sur sa tête, ses vêtements et tout son corps, etc. etc. »
Oui, pour le christianisme, tout cela est abominable. Il n'y a plus besoin d'ailleurs avec le christianisme de sacrifice d'animaux, puisque le sacrifice du Christ sur la croix suffit. Et être arrosé du sang de taureau, c'est particulièrement abominable parce que le sang de taureau, depuis une antiquité très lointaine, passait pour être un poison violent. Selon même un certain nombre de légendes, quelques personnages célèbres s'étaient suicidés en buvant du sang de taureau, notamment le roi Midas, personnage héros de fables un peu comiques.
Trop bavard, trop vaniteux.
Et puis le grec Thémistocle ou le carthaginois Hannibal, tous deux passés pour avoir bu du sang de taureau pour mettre fin à leur jour.
Alors que les excréments du taureau, la fiente quand elle est très chaude peut être utile, puisque quand on la mélange, je vous lis, au bois de cerf pilé, au lait, au millepertuis et à la bave de crapaud, on peut en faire un magnifique baume contre les morsures de serpent.
Oui, ce sont naturellement des recettes qui viennent de très loin, qui se transforment et s'enrichissent au fil du temps. Elles servent à faire pas mal de choses.
Est-ce qu'on peut essayer? Est-ce qu'on peut recommander ça à notre public?
Bien sûr, oui, tout à fait. Surtout pour fertiliser le sol, voire fertiliser les femelles du bétail, éventuellement les dames. Voilà, on en trouve jusqu'au cœur du Moyen-Âge et même parfois encore en plein XVIIe siècle de ces recettes.
Alors vous parliez du christianisme, en effet, on pense au taureau, ou plutôt au bœuf, qui est voilà. Le taureau après un coup de couteau, en somme. Et je voudrais vous faire entendre un joli texte de Jules Supervielle, qui évoque le bœuf et l'âne de la crèche. C'est une lecture de Madeleine Renaud et de Jean-Louis Barrault dans Le Rideau se lève, une émission de la Radio d'État, le 26 décembre, c'est à l'occasion de Noël, 1948. Vous allez voir, c'est assez tendre.
Sur la route de Bethléem, l'âne conduit par Joseph portait la Vierge. Elle pesait peu, n'étant occupée que de l'avenir en elle.
Le bœuf suivait tout seul.
Arrivés en ville, les voyageurs pénétrèrent dans une étable abandonnée.
Et Joseph se mit aussitôt au travail. Ces hommes, songeait le bœuf, sont tout de même étonnants. Voyez ce qu'ils parviennent à faire de leurs mains et de leurs bras. Cela vaut certes mieux que nos sabots et nos pâturons. Et notre maître n'a pas son pareil pour bricoler et arranger les choses.
Joseph sort et ne tarde pas à revenir, portant sur le dos de la paille.
On aura peut-être besoin de vous cette nuit, dit la Vierge au bœuf et à l'âne.
Le bœuf se lève, constate qu'il y a dans la crèche un enfant nu qui dort. Et de son souffle, le réchauffe avec méthode, sans rien oublier.
D'un souriant regard, la Vierge le remercie. Des êtres ailés entrent et sortent, feignant de ne pas voir les murs qu'ils traversent avec tant d'aisance.
À l'aube, le bœuf se lève, pose ses sabots avec précaution, craignant de réveiller l'enfant, d'écraser une fleur céleste ou de faire du mal à un ange. Le bœuf pense à ses cornes, il rumine. Souvent les bœufs font semblant de ruminer alors qu'au fond de leur âme, ils chantent. Il est inquiet. S'il allait donner par mégarde un coup de corne à l'enfant. Tu ne dois pas trop t'approcher du petit, dit l'âne. Le bœuf approuve par un silence d'une qualité exceptionnelle. Il sait donner à son mutisme un rythme, des nuances, une ponctuation. L'âne se tient à gauche de la crèche, le bœuf à droite. Place qu'ils occupaient au moment de la nativité et que le bœuf, ami d'un certain protocole, affectionne particulièrement. Immobiles et déférents, ils restent là durant des heures, comme s'ils posaient pour quelques peintres invisibles.
Alors le bœuf, le taureau, c'est le début d'une rivalité qui va connaître des différences assez cycliques, le taureau l'emportant sous le regard des hommes, parfois sur le bœuf et inversement.
Oui, le christianisme qui avait pour rival le mithrasisme et qui a triomphé de cette religion rivale prend dans un premier temps le taureau en horreur puisque c'est l'animal vedette de la religion rivale et valorise le bœuf. On fait un animal vertueux, docile, pacifique, travailleur, d'où sa présence dans la crèche. Les évangiles canoniques ne parlent pas du tout de l'année du bœuf dans la crèche. Mais
Luc en dit un mot, mais très très rapide.
Luc parle d'une naissance dans une étable et dans une mangeoire, une crèche, mais il ne va pas plus loin. Ce sont les évangiles apocryphes qui place dans cette étable un âne et un bœuf, et puis l'iconographie va prendre le relais de bonne heure, et pas représenter la nativité, ni l'adoration des mages ou l'annonce aux bergers, sans le bœuf et l'âne, bien sûr, entourant l'enfant Jésus, avec une question qu'on se pose de bonne heure. Qu'est-ce qu'ils signifient? Que font-ils là? Quel est le plus important des deux? Avec beaucoup d'explications. La plus fréquente et la plus intéressante pour l'historien, c'est l'idée que Jésus est né dans une étable, donc il est venu sur terre aussi pour sauver les animaux. C'est l'idée d'une communauté des êtres vivants, en quelque sorte. Et ça engendre beaucoup d'interrogations sur les rapports entre l'homme et l'animal, le statut des animaux après la mort, vont-ils en enfer, au paradis, le même enfer et paradis que les humains, etc., etc. Et puis, est-ce qu'ils ont le même rôle, le bœuf et l'âne? Il semblerait que, comme l'a dit le texte que nous avons écouté, que le bœuf soit plus valorisé que l'âne. C'est lui qui, souvent, dans les images médiévales, puis dans la peinture, est le plus près de l'enfant Jésus, qu'il réchauffe de son souffle. Est-ce que le bœuf représente le peuple juif et l'âne, les païens, les gentils? Ou est-ce que c'est le contraire? Est-ce qu'ils évoquent et annoncent les deux larrons qui vont entourer le Christ sur la croix? Bref, on glose beaucoup sur ces deux animaux. Mais à partir de la fin du Moyen-Âge et surtout du XVIe siècle, le taureau se revalorise parce qu'on redécouvre l'Antiquité, les textes, mais aussi des objets, des œuvres d'art par l'archéologie, notamment en 1546, le grand taureau Farnèse, un grand ensemble sculpté qui représente le supplice d'une reine.
Qui sort d'une fouille et qui passionne le pape Borgia.
Voilà, près des thermes de Caracalla, on l'a trouvé, vraiment un ensemble colossal qui pèse 20 tonnes, que s'approprie le pape Paul III Farnèse.
Où est-il aujourd'hui? Où peut-on le voir?
Il est à Naples, au musée archéologique, où on peut le voir, tout à fait nettoyé et restauré. Au XVIe siècle, le taureau est vraiment dans l'air du temps, d'autant que, avant même la découverte du taureau Farnèse, un pape, Alexandre VI Borgia, qui règne 11 années, je crois, 1492-1503, a un taureau dans ses armoiries. D'une famille aragonaise à l'origine, les Borgia, c'est un taureau héraldique assez banal, mais le pape Alexandre VI le met en scène partout dans ses palais romains. Il organise même des spectacles taurins. Il rappelle l'existence du bœuf Apis d'Égypte dans un certain nombre de décors. Bref, parfois on en a fait le rénovateur des courses de taureaux antiques, c'est un peu exagéré. Mais en tout cas, le taureau est à l'honneur, donc dans la Rome du XVIe siècle.
Et cela se traduit dans l'héraldique qui vous est si cher, Michel Pastoureau.
Voilà, oui, j'ai même consacré ma thèse au bestiaire héraldique médiéval et fait un certain nombre de statistiques. Le taureau et les bovins, d'une manière générale, ne sont pas les vedettes de ce bestiaire. Le lion et l'aigle sont bien plus fréquents. Mais enfin, il occupe une place honorable, le taureau, représenté souvent d'ailleurs plus par sa tête seule que par son corps entier, soit dans l'écu, soit au-dessus de l'écu. Quelquefois, c'est un jeu de mots entre le nom de la famille qui évoque un taureau ou un bœuf. Quelquefois, c'est une autre idée qui explique le choix de cet animal et une idée qui nous échappe. Mais il se dégage quand même, comme toujours, l'idée de force, l'idée de fertilité, l'idée d'énergie vitale toujours présente dans cet animal.
Je relève que la maison de la princesse de Clèves avait un taureau dans ses armoiries, la princesse de Clèves si chère à Nicolas Sarkozy.
Voilà, la maison de Clèves, oui, qui est largement possessionnée dans la basse vallée du Rhin, a un taureau dans ses armoiries, dont elle fait d'ailleurs une sorte d'emblème, logo, pourrait-on dire. Elle le met en scène partout, au moment où elle est la plus puissante, c'est-à-dire au 15e, 16e et 17e siècle, et ses vassaux reprennent parfois cet emblème en signe d'hommage ou simplement de vassalité.
Comment passe-t-on des bestiaires qui vous sont si chères du Moyen-Âge aux encyclopédies ? 17e et 18e siècle qui ont tant à nous apprendre sur les sensibilités de l'époque.
Il y a une continuité entre les bestiaires médiévaux et même plus en avant entre les encyclopédies antiques, par exemple Pline, son histoire naturelle est pillée par les encyclopédies médiévales et tout cela est repris par les encyclopédies et les dictionnaires des 17e et 18e siècles. Donc on peut suivre le discours sur le taureau depuis Pline jusqu'à Buffon par exemple et on voit un certain nombre de phrases qui se répètent, qui sont reprises et puis des corrections qui sont faites, des ajout. Le dictionnaire de Furtière à la fin du XVIIe siècle donne une bonne notice sur le taureau qu'on retrouve partiellement dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert au milieu du XVIIIe siècle. On souligne encore l'existence du taureau banal, c'est-à-dire du taureau féodal, celui que possède le seigneur. Et c'est ce taureau-là qui doit féconder les vaches possédées par les paysans de la seigneurie qui doivent conduire leurs vaches au taureau seigneur. Souvent c'est remplacé d'ailleurs par une somme d'argent que par un accouplement véritable. Bref, on parle beaucoup du taureau au XVIIe et au XVIIIe siècle parce que c'est un animal qui joue un rôle important dans la vie des campagnes.
Mais enfin, Buffon reste très très hostile, il n'aime pas le taureau. Il écrit « Le taureau n'a presque aucune expression dans la physionomie. Quand on le regarde en face, il ne présente qu'un front vaste et concave et un mufle large et épais. Cet animal n'a aucun trait décidé, on n'y distingue aucune finesse d'instinct, on n'aperçoit qu'une masse informe qui ne peut annoncer que la stupidité. »
Oui, Buffon n'aime pas le taureau, il préfère le bœuf. D'ailleurs, il réunit les deux animaux, avec la vache d'ailleurs, dans un chapitre unique. C'est assez fréquent chez Buffon, il y a des animaux qu'il n'aime pas. Et quand il n'aime pas, il est très méchant. Et si on va un peu dans le concret des chapitres, on s'aperçoit que Buffon n'aime pas les animaux qu'il a du mal à classer. À classer par rapport à sa classification personnelle. Et alors, le fait que le taureau soit à la fois domestique et sauvage de caractère, ça le gêne. D'où l'expression, très belle, c'est le plus sauvage de nos animaux domestiques, mais aussi une certaine aversion pour cet animal. Il est pareillement très hostile au cochon qui a le sabot fendu mais qui ne rumine pas, à l'ours qui ressemble à l'homme mais qui n'est nullement humain par son comportement, et ainsi de suite. On pourrait d'ailleurs établir une liste des animaux très valorisés par Buffon, à commencer par le cheval, et puis ceux qu'il déteste.
Mais le taureau reprend, si je puis dire, du poil de la bête au XIXe siècle, avec le romantisme.
Voilà, il y a de nouveau un intérêt pour le taureau, pour sa force, sa fougue, sa vitalité, sa fécondité, son énergie vitale.
Fascination aussi pour la corrida, pour la première fois, chez un Théophile Gautier, par exemple, dans son voyage en Espagne.
Voilà, les romantiques, Théophile Gautier, par exemple, jeune, Mérimée, jeune, plus tard Manet et quelques autres reviennent d'Espagne admiratifs pour ces spectacles qu'ils ont vus, qui sont nés dans leur forme moderne à la fin du XVIIIe siècle. Les origines de la corrida moderne ne remontent pas très haut, contrairement à ce qu'on a souvent écrit. Les premiers traités organisant le rituel et le spectacle datent de l'extrême fin du XVIIIe siècle et surtout de la première moitié du XIXe, 1836, la Tauromachia Completa, c'est le texte fondateur au fond dans ces années 1830. Et alors, les voyageurs sont attirés, non espagnols, pour aller voir ce qui se passe. Certains sont très très favorables, comme Théophile Gautier ou Prosper Mérimée, d'autres sont horrifiés par ce qu'ils ont vu.
Simultanément, on voit le bœuf en déclin. C'est le moment où apparaît l'adjectif bovin, qui n'est pas très très positif. Vous, comme toujours, vous allez considérer ce que le vocabulaire peut nous enseigner.
Oui, l'histoire des mots, c'est toujours le premier dossier que doit ouvrir l'historien, et spécialement celui qui pratique l'histoire culturelle, parce que l'histoire des mots nous apprend beaucoup de choses, sens propre, mais aussi et surtout sens figuré, proverbes, adages, expressions. Donc bovin devient un adjectif péjoratif. Du côté de la vache, on voit apparaître également un dossier qui ne lui est pas très favorable du point de vue lexical.
Mort aux vaches, la vacherie...
Traiter une femme de vache, c'est d'abord la traiter de souillon, puis de femme de mauvaise vie, et puis apparaît le mot vacherie dans les années 1870. Mort aux vaches, c'est probablement lié à l'occupation de la France par les Prussiens en 1871.
Peut-être à cause d'un jeu de mots, Wache.
Un jeu de mots, dit Wache en allemand, c'est la sentinelle, le surveillant. Waren, c'est garder, surveiller. Lu à la française, ça donne vache, et ça donne une synonymie avec toute une famille de mots qui évoquent un personnage négatif. Ça donne même la création de l'adverbe un peu plus tard, vachement, hein, qui veut dire d'abord méchamment, puis plus banalement, il s'use et il devient synonyme de trait.
Fortement, oui. À New York, devant la bourse, il y a un taureau qui tend sa patte en direction du temple du capitalisme. Le taureau et l'argent, il y a des liens ?
Oui, cela fait un coup à l'idée très antique, au fond, que posséder des taureaux, posséder des bovins, des troupeaux, c'est un signe de grande richesse. D'ailleurs, en latin, le mot pecus, qui désigne le bétail ou le troupeau, donne des adjectifs qui aboutissent au français pécuniaire et au latin pecunia, l'argent, ce qui a rapport avec l'argent. Donc, cette idée est peut-être encore présente dans ce taureau new-yorkais présent devant la bourse.
Alors, venons-en, je l'avais promis, l'art au XXe siècle, et en particulier à Pablo Picasso, puisque pour lui, le Minotaure a toujours été essentiel. Je vais vous faire entendre un commentaire de Jean Clair, le grand spécialiste de l'histoire de l'art, un commentaire de Jean Clair sur Guernica. C'est un extrait des Persifleurs du Mal sur France Inter, le 29 juillet 2010. Jean Clair.
Ce que l'on dit toujours, c'est que c'est un souvenir, une évocation du bombardement de la ville basque de Guernica pendant la guerre civile espagnole, qui représente une maison en flammes à l'intérieur de laquelle on voit une femme avec un enfant sur les bras, un homme les bras étendus, mort, trois autres femmes sur la droite, et puis la présence d'un taureau et d'une jument. Quand ce tableau existe, en fait, il se réfère à un premier niveau du mal, si vous voulez, qui est le mal personnel, le mal dans la vie intime, le Minotaure représentant Picasso lui-même dans toute sa force de macho qu'il était, et la jument représentant en général la femme, l'élément féminin. Et c'est un tableau qui semble conclure toute une série d'œuvres que Picasso avait faites autour de ses malheurs conjugaux, de la tragédie conjugale qu'il avait vécue et qui venait à peine de se terminer avec sa première épouse, Olga Kokova. À partir de Guernica, le tableau change de sens, s'ouvre à l'histoire, s'ouvre au mythe pratiquement. Le Minotaure n'est plus Picasso Minotaure, mais devient une espèce d'incarnation de la férocité. Et la jument, un symbole de la population, du peuple, des hommes et des femmes blessés à mort par la violence des bêtes maléfiques, cannibales, comme le Minotaure.
Vous agréez ce commentaire, Michel Pastoureau, les bêtes maléfiques, Minotaure, Picasso?
Oui, enfin, la double explication proposée par Jean Clair, avec un changement de sens après le bombardement de la ville de Guernica. En même temps, l'idée que le taureau et la jument font couple, ça nous renvoie presque à la préhistoire. C'était déjà une hypothèse de le roi Gouran, auroch et chevaux formant une sorte de couple de contraires. Donc on est là dans la très longue durée par rapport à l'interprétation. Picasso a de très bonne heure assisté à des corridas et a toujours été admiratif du taureau, de la force vitale du taureau, de son énergie. Lui-même se comparait, et ses amis le comparaient, à une sorte de taureau, tellement il avait de vigueur et d'énergie, jusqu'à une date très très avancée, puisqu'il a vécu longtemps. Et le taureau, bien sûr, est un thème artistique et iconographique totalement récurrent dans son œuvre d'un bout à l'autre.
Il faut dire aussi un mot de l'astrologie. Il y a le signe du taureau, et cela nous conduit loin en arrière jusqu'à présent, jusqu'au magazine populaire qui...
Oui, nous remontons le temps, là, l'idée que certaines dispositions d'astres forment des constellations et que l'on peut donner à ces constellations des noms d'animaux dont elles évoquent la forme, ça se situe très tôt, hein, du côté de Sumer, des Chaldéens plus tard. La constellation du taureau est une des plus anciennes et elle va correspondre à une période de l'année, un signe du zodiaque, lorsque les Grecs, et avant eux peut-être d'ailleurs d'autres peuples, découpent la voûte céleste en 12 parties, et la constellation du taureau, lorsqu'elle est traversée par la course du soleil, devient le signe astrologique du taureau entre le 21 avril et le 20 mai, si je ne me trompe pas. Peu à peu, d'ailleurs, se dégage l'idée que les personnes nées sous le signe du taureau présentent telle ou telle caractéristique.
Oui, lesquelles?
Ça n'est pas très ancien, mais c'est déjà bien en place à l'époque de la Renaissance.
Volonté,
constance, ténacité, signe de terre bien ancré, bien concret, signe de sexualité aussi, de vitalité, de plaisir des sens. Comme tous les signes, il y a les bons et les mauvais aspects. Ça n'est pas du tout un signe aérien, léger, fluide. C'est bien ancré dans le sol que d'être né sous le signe du taureau.
Il est associé à Vénus pour les planètes, au cuivre pour les métaux.
Voilà, on fait des correspondances avec les planètes, les métaux, les couleurs, toutes sortes d'autres choses dès la fin du Moyen-Âge et jusqu'en plein XVIIIe siècle, ce qui permet de faire aussi des tableaux comparatifs et de faire un peu de divination, sinon... plus de magie ou de sorcellerie à partir de l'astrologie. Les sociétés anciennes ne distinguent pas nettement astronomie et astrologie. Le Moyen-Âge les confond encore, mais c'est l'époque moderne qui distingue l'aspect scientifique, astronomie, et l'aspect plus ou moins divinatoire, astrologie.
J'ai dit que nous ne traiterions pas de la grande question de la corrida aujourd'hui, pour, contre, etc. Mais néanmoins, j'ai le goût de vous demander, Michel Pastoureau, au moment où se clôt notre conversation, ce en quoi la longue histoire du taureau, de siècle en siècle, plurimillénaire, pas seulement pluriséculaire, peut éclairer la force des affrontements d'aujourd'hui.
Oui, les positions sont très tranchées, donc on aura du mal à faire concilier partisans et adversaires de la corrida. Je crois que c'est un peu vain d'essayer de le faire. Mais la longue histoire du taureau n'est que partiellement concernée. Je crois qu'on a un peu abusé quand on a cherché les origines de la corrida, en remontant trop loin, en voyant dans les aurochs peints sur les grottes du Paléolithique les premières attestations de pratiques de type tauromachique. Non, c'est exagéré. De même dans la Crète du deuxième millénaire avant notre ère, ou dans le mithrasisme, religion orientale, à la fin de la République romaine et sous l'Empire romain, tout ça n'a aucun rapport avec la corrida moderne. D'ailleurs, le mithrasisme, c'est un culte du soleil, pas du taureau. C'est plutôt à partir du XVIe siècle, il n'est pas déraisonnable de voir quelques racines anciennes, mais surtout, la fin du XVIIIe siècle, où naît la corrida moderne.
La tauromachie, il y a beaucoup d'archives naturellement, mais je vous en offre une. C'est une lecture par Maria Cazares de La mort du taureau de José María de Heredia, qui a été publiée en 1903. Ce n'est pas un poème, c'est un poème en prose. C'est une citation d'une émission du 11 août 1961.
bandito che confida al caro cuore.
Le matador serein, agile, s'esquive et enfonce l'épée jusqu'à la garde. Le taureau s'immobilise et son mugissement exprime sa douleur, sa rage profonde, son agonie. C'est vainement qu'il lutte contre la mort cruelle. Il veut encore se venger, mais sa force l'abandonne avec le sang chaud qui coule à gros bouillons. Et pris entre la douleur et la colère, il vacille, tombe et mugissant, expire.
Voilà, voilà, c'est Maria Cazares qui nous donnera, Michel Pastoureau, le ton de la fin.
Eh bien, nous finissons avec une très jolie voix.
Le livre sur lequel j'ai fondé cette émission et qui est en librairie maintenant s'appelle « Le taureau, une histoire culturelle » aux éditions du Seuil, c'est votre éditeur ordinaire. Vous avez également écrit des ouvrages précédemment sur le loup, encore une fois une histoire culturelle, sur l'ours, histoire d'un roi déchu, sur les animaux célèbres auparavant en 2008. Et puis j'ai le goût de mettre en lumière et de célébrer un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Une couleur ne vient jamais seule », journal chromatique 2012-2016, paru en 2017. Rappelez-nous de quoi il s'agit.
Eh bien, au fil du temps, de mes promenades, de mes observations, j'ai pris quelques notations sur les pratiques colorées de nos sociétés contemporaines au fil du jour et au fil des semaines, et puis j'ai décidé de les mettre par écrit, d'en faire un journal, mais dont le fil conducteur est la couleur. Je l'ai appelé journal chromatique et je l'ai tenu pendant 5 années, et donc j'ai publié cette période 2012-2016, au fond c'est couleurs et sociétés vues par Michel Pastoureau, un peu égoïstement. J'espère pouvoir donner une suite à ce journal que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire et qui permet de parler de problèmes concernant la couleur, petites histoires, mais aussi réflexions plus profondes montrant que la couleur, c'est quelque chose de difficile à définir, de difficile à saisir même.
Quand vous songez au taureau, vous pensez à quelle couleur ?
Le taureau, c'est la force, c'est l'énergie, c'est le sang, c'est la couleur rouge. Et puis, c'est une bête redoutable, c'est une bête qui a été diabolisée à certaines époques, donc c'est la couleur noire. Et le rouge plus le noir, c'est plus que la somme de ces deux couleurs. C'est le rouge et noir, même si Stendhal n'a rien à voir. C'est quand même un couple de couleurs qui a une force expressionniste qu'on a remarqué très tôt et dont on a utilisé la binarité pour faire des emblèmes et des symboles très forts.
Eh bien, nous allons nous quitter sur cette binarité, Michel Pastoureau. Je rappelle à nos auditeurs, à nos auditrices qu'ils pourront retrouver une bibliographie encore plus complète, et la vôtre est considérable, j'allais dire presque immense, sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et bien sûr, écouter, réécouter, podcaster cette émission dans l'éternité. Je continuerai à dire de temps en temps balado-diffusion à la manière des Québécois, mais c'est un peu lourd. Samedi prochain, nous parlerons d'Alfred Jarry et du père Ubu. Vous verrez que on peut trouver dans son œuvre quelque actualité. En tout cas, j'essaierai de le démontrer avec Pascal Horry. Lundi matin, vous retrouverez le cours de l'histoire de Xavier Mauduit, qui consacrera sa semaine à la question suivante, l'histoire par les territoires. C'était Concordance des temps, une émission préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Anthony Thomasson, à la discothèque Nathalie Rouvillain et François Merlin, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Anne Delaveau. Et dans quelques instants, Christine Ockrent pour Affaires étrangères.